Comment la vie est-elle apparue sur Terre?
On peut envoyer actuellement des signaux à 100 millions de kilomètres.
Les scientifiques repoussent encore les limites du possible.
Il n'y a rien qui soit pérenne dans le temps. Tout est d'ordre chaotique, mais ça peut être des chaos sur des échelles de temps de l'année, du million d'années, du milliard d'années. Ce qui compte, c'est le temps qu'il faut pour que les choses dérivent.
Tout ce qu'ils veulent, c'est faire des chiffres. Ils n'ont rien à foutre qu'on détruise le fond des océans.
So, I had an idea.
Le siècle des ampoules.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du siècle des ampoules en compagnie de Denis Théroigne. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Bonjour.
Alors Denis Théroigne, vous êtes physicien, professeur à l'Université libre de Bruxelles et vous dirigez le groupe de recherche Frugal Lab où nous sommes actuellement. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer quelle est la mission, sur quoi travaille le Frugal Lab?
Alors le Frugal Lab s'intéresse à plusieurs choses. Notamment, c'est un laboratoire de physique en fait, qui s'intéresse à la matière et au système complexe. Matière molle, alors ça peut être tout ce qui est les gouttes de liquide ou des mousses, ou que ce soit liquide ou solide, des matériaux un peu bizarres. Voilà, c'est la physique vraiment, vraiment fascinante. C'est même de la physique qui est de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours. Enfin, c'est des objets de la vie de tous les jours. Donc il y a une partie très curieuse fondamentale là, et en même temps, il y a une partie plus appliquée où on essaye de répondre à des problèmes de société, notamment la collecte d'eau dans des endroits reculés, ou encore la mesure de la qualité de l'eau dans des endroits aussi où c'est compliqué de le faire.
Et justement, vos recherches portent sur la collecte d'eau dans des régions qui connaissent des stress hydriques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, dans un premier temps, en tant que physicien, comment est-ce que vous en êtes venu à travailler sur cette problématique?
Alors oui, d'abord, en fait, c'est marrant parce que je viens du monde de la physique fondamentale. Donc c'est vraiment la curiosité des objets du quotidien et comprendre comment une goutte se comporte sur une fibre, comment elle va glisser sur une vitre, un carreau. Enfin, des trucs un peu fascinants, très jolis, dont les physiciens sont intéressés, parce qu'en fait, en étudiant cela, on peut mieux comprendre la matière. Et puis, je me suis rendu compte aussi que dans le monde de la biologie, des plantes, des animaux, etc., utilisaient beaucoup ces mécanismes physiques assez astucieux pour pouvoir arriver à soit collecter ou déplacer des liquides. Et j'ai découvert là un monde absolument fascinant. Je me suis dit, mais c'est super riche ce truc. Donc j'ai combiné la physique et la biologie. Et puis je me suis rendu compte aussi qu'on avait des outils de fabrication, notamment pour faire des expériences pas chères, ou notamment les machines de fabrication numérique qui permettent, vous verrez au labo, tout ce qu'on peut faire avec ce genre d'outils-là. Et avec ces problèmes d'accès à l'eau potable, je me suis dit, pourquoi pas mettre toutes ces super savoirs en application. Et donc, en regardant un petit peu, il y a déjà des associations qui ont développé des fils à nuages, notamment Fog Quest au Canada. Ils prenaient des fils à patates, un peu comme celui-ci. On retrouve au magasin, hein, vous regardez des carottes, elles sont souvent dans une espèce de filet, un filet jaune ou orange. Et en tendant ça dans des contrées comme le Chili ou au Maroc, eh bien, ils pouvaient récolter pas mal d'eau. Le problème, c'est que c'était pas très durable parce que avec le soleil, le plastique, il va devenir cassant. Et donc, des vents violents, c'est pas du tout tenable. Alors, par exemple, l'ONG au Maroc avec qui on travaille actuellement, eux, ils ont développé avec un groupe allemand des filets beaucoup plus résistants et beaucoup plus astucieux, mais beaucoup plus chers aussi. Et on a toujours été fascinés aussi par cette logique de frugalité. Parce que voilà, souvent quand on regarde la nature, c'est tellement simple, enfin simple. C'est pas simple parce que c'est très astucieux, mais en même temps, il y a une espèce de simplicité qui est fascinante. Voilà, c'est l'idée de faire un Frugal Lab qui met comme contrainte créative la frugalité.
Ce que la nature arrive très bien à faire, hein, comme vous le dites. Alors, vos recherches s'inspirent du vivant, vous l'avez dit, on parle de biomimétisme ou bio-inspiration. Quel exemple avez-vous trouvé dans la nature pour inspirer vos recherches?
Alors, il y a une inspiration qui a fort à cœur, ce sont des collègues américains de l'université de Utah, donc ils travaillent dans près des déserts, et ils se sont intéressés à des mousses. Alors c'est marrant parce que la mousse, tout le monde s'en fiche un petit peu, parce que c'est partout, et on se dit que c'est pas très intéressant. Et en fait, ils ont remarqué que la mousse, elle avait des petites aiguilles blanches comme ça au bout. Et en regardant ça dans un microscope assez puissant, environnemental, ça veut dire qu'on peut y mettre de l'humidité, etc. Ils ont remarqué que, un, ces petites aiguilles blanches étaient comme des cônes. Deux, elles étaient texturées, alors micro-texturées et nano-texturées. Et dans les nanotextures, en fait, on pouvait plus facilement arriver à condenser de l'eau qui était présente sous forme de vapeur dans l'environnement de la plante. Ça veut dire que les mousses étaient capables de condenser de l'eau alors qu'on était en dessous de la pression de vapeur saturante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau liquide. Et par sa structure, par sa géométrie, elle pouvait arriver à faire croître une goutte d'eau. Une fois qu'elle sent la nature conique de la petite aiguille, elle peut remonter et aller mouiller la mousse. Et je trouvais ça fascinant parce que... Alors je me suis penché sur mon balcon et puis j'ai regardé. Et en fait, il ne fallait pas aller dans le désert, il y en avait là. Donc en ouvrant la fenêtre du laboratoire, sur le balcon, il y avait la mousse dont il parlait. Et ça, je me suis dit, ouais, c'est juste incroyable.
Et peut-être concrètement, comment ça s'est donc traduit dans vos recherches? Vous avez développé, je parle sous votre contrôle, ce qu'on appelle des filets en kirigami.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et aussi quelles sont leurs particularités? Parce que finalement, les filets à nuages, on en connaît depuis les années 90.
Hein. Oui. Oui, alors leurs particularités, ils ne sont pas chers à produire, ils sont assez simples. En fait, c'est juste une feuille de plastique avec des bandelettes avec des découpes. Et donc, quand on tire dessus... il y a une structure 3D qui se forme. C'est en fait l'élément le plus simple qu'on peut fabriquer à partir d'une. Si nous on découpe ce laser, on prend une feuille, on fait des découpes, on tire, on fait une structure 3D. Donc j'aimerais dire que c'est le kirigami le plus simple. Alors comment c'est venu cette idée-là? En fait, j'arrive pas vraiment à l'expliquer. C'est ce que je vous dis, ça revenant les recherches de front fondamentales et appliquées de front, elles arrivent toutes seules. Et en fait, en faisant ça, on avait testé, on avait construit une machine pour mesurer l'efficacité des filets à nuages. Et donc, on a mis au banc de test en fait, différents filets qui étaient utilisés. Et puis, à un moment donné, on a mis celui-ci, celui en kirigami. Et en fait, il marchait hyper bien, aussi bien que le meilleur d'entre eux. Et même plus rapidement, on savait collecter de l'eau que le filet qui est actuellement utilisé, par exemple, au Maroc. En fait, bon, il a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce que c'était, mais en fait, l'explication est très simple. Elle vient de la géométrie de la fibre. Les filets qu'on emploie actuellement, qui sont très performants, sont des fibres cylindriques. Et donc, quand une goutte se forme sur une fibre cylindrique, même si elle a une grande affinité avec le matériau, elle ne va pas s'étaler complètement. Parce qu'en fait, comme la fibre a une courbure, elle va pouvoir compenser la courbure de la fibre avec sa courbure à elle. Elle va garder la forme d'une perle. Dans une structure kirigami, c'est des bandelettes. C'est donc plat. Et si on prend une goutte et la dépose sur un substrat plat, elle va s'étaler complètement, parce qu'il n'y a pas de courbure comme dans la fibre. Et donc, en faisant comme ça, en fait, les petites gouttes de brouillard vont s'étaler complètement sur le filet et créer un fin film liquide qui va permettre une meilleure captation et un meilleur drainage des filets. Et ça, en fait, quand on regarde la mousse, elle crée également un fin film liquide sur sa structure qui permet également de bien lubrifier la structure et de permettre une meilleure captation. Donc en fait, c'est a posteriori qu'on voit qu'on s'est inspiré de la nature, et c'est ça qui est un peu particulier.
Alors votre projet de recherche vise donc à récupérer de l'eau dans l'atmosphère, hein, comme on le mentionnait un peu plus tôt. L'eau, elle est présente sous différentes formes et en différentes quantités dans cette atmosphère. Est-ce que vous pouvez nous décrire cet environnement?
Oui, alors oui, dans l'atmosphère, on peut trouver de l'eau sous forme de vapeur, de l'eau sous forme liquide ou de l'eau sous forme de glace. Alors l'eau sous forme de vapeur, on ne la voit pas. Si par exemple vous prenez votre bouilloire et vous faites chauffer votre eau, quand ça va bouillir, vous allez voir un fin filet blanc sortir et vous pensez que c'est de la vapeur, mais en fait c'est pas de la vapeur, c'est déjà un brouillard. Parce que la vapeur vous la voyez pas, mais quand la vapeur arrive, si on a de l'air chargé en humidité, c'est très chaud, donc en fait quand l'air est chaud, on s'émet plus de vapeur d'eau dans mes tubes d'air que s'il fait froid. Donc ça veut dire que si vous chauffez de l'air, vous mettez beaucoup d'eau dedans et puis vous envoyez cet air-là et vous le faites refroidir en sortant de votre bouilloire ou en montant une montagne, eh bien l'air en se refroidissant va faire condenser l'eau sous forme de petites gouttelettes qui seront là, donc un brouillard ou un nuage. Là, les gouttes sont liquides. Après, dans les nuages, on a aussi également des petites gouttes solides. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les gouttes liquides. Alors, ce qui nous intéresse, c'est les brouillards d'advection. C'est-à-dire que c'est souvent sur les côtes ouest des continents, alors d'Afrique ou alors d'Amérique du Sud ou encore en Amérique du Nord. L'océan s'évapore, charge l'air en humidité, l'air est envoyé sur le continent et puis monte parfois sur une montagne, va se refroidir, va créer ce brouillard, ces petites gouttes et puis va continuer son chemin mais va vraiment passer à ras de la montagne. Parfois, même dans des régions désertiques. Hein. Dans le désert de Namibie, par exemple, il y a énormément de brouillard. Il y a toute une faune et une flore qui vit grâce à ce brouillard-là. Donc c'est un brouillard qui peut parfois être assez dense, qui se déplace à très grande vitesse. Et là, il suffit de mettre des filets et on peut récolter par interception des micro-gouttes pas mal d'eau en fait. Hein.
Et concrètement, justement, quelles sont les quantités d'eau que ces filets à nuages peuvent récupérer en fonction, j'imagine, de leur superficie?
Oui. Alors, l'ONG avec qui on travaille au Maroc est l'ONG d'Arsi Hamad. Eux, ils ont 1700 m2 de filets déployés dans les montagnes pour à peu près 16 villages. Et donc, ils ont à peu près la moitié d'eau qui vient du forage et la moitié d'eau qui vient des filets à brouillard. Les quantités qu'ils peuvent récolter sont annuellement de l'ordre de 10 litres par mètre carré par jour. C'est une moyenne annuelle, mais avec des pics de 100 litres par mètre carré par jour. Et voilà, donc c'est quand même assez important. Et donc nous, on a envoyé nos prototypes à l'ONU, bon, parce qu'on a fait nos déploiements en laboratoire, enfin notre développement en laboratoire. On a testé différents filets, on a remarqué lequel filet était les plus performants. On peut les comparer entre eux, on peut mettre des chiffres dessus dans des environnements contrôlés. Et puis, bon, à un moment donné, il faut aller sur le terrain pour voir si ça marche, parce que bon, c'est bien beau au laboratoire, mais on aimerait bien voir si on veut vraiment un impact. Et donc, on a envoyé des filets d'un mètre carré, cette fois-ci, au Maroc, deux, et qui ont été placés sur deux différentes montagnes, et ils ont récolté, effectivement, pendant un mois, 30 litres carrés par mètre carré par jour, moyennement, jusqu'à 100 litres par mètre carré par jour, certains jours où il y avait beaucoup de brouillard. Donc, c'est quand même assez important. Et oui, non, ça dépend de l'endroit où on est. En Belgique, c'est plus compliqué parce que on est souvent habitué aux brouillards qui sont radiatifs. C'est des brouillards qui montent doucement parce que l'air se refroidit, pas radiation. Enfin, l'air se refroidit et donc il y a de la condensation. Mais comme le brouillard ne bouge pas, il faudrait aller prendre son vélo, mettre un filet et rouler pour pouvoir arriver à le récolter. Mais il faut bien rouler assez vite parce que les vents au Maroc, ça va jusqu'à 100 km/h.
Donc c'est transposable, mais pas n'importe où, quoi. Ça dépend de la géographie.
Oui. Et ce qui est intéressant, c'est ça, quand on regarde où les hommes, quand on voit des hommes dans le désert, c'est qu'ils ont une source d'eau. Et parfois, ces sources d'eau sont complètement, c'est assez astucieux. C'est pas toujours du forage. Parfois, ça peut être des filets. Parfois, ça peut être des fumerolles, hein, des volcans qui donnent ou alors parfois, ça peut être aussi des glaciers qui fondent ou des, donc il y a voilà, c'est comme si on voit de la vie, si on voit des animaux, des insectes, des plantes, il y a également de l'eau. Et ce qu'il faut se demander, c'est d'où vient cette eau-là. C'est vrai que le désert de Namibie est un endroit très intéressant parce qu'il y a vraiment je crois que c'est 80% de la faune et de la flore du désert de Namibie provient de la collecte du brouillard. Et là, c'est pas une montagne en fait qui refroidit l'air, c'est un courant marin froid qui remonte en fait du sud vers le nord, qui passe juste à côté de la côte et donc qui refroidit l'air et qui envoie un brouillard de dingue sur le désert, quoi.
Et vous nous parliez un peu plus tôt que, évidemment, vous avez dû tester vos filets en laboratoire. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire comment se passe ce genre de test? Qu'est-ce que vous mettez en place pour justement avoir ces environnements contrôlés et pouvoir les comparer aux autres filets déjà développés?
Oui. Alors, le rôle du physicien, c'est de simplifier la réalité au maximum. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on parle à quelque chose de très complexe et on retire tout ce qui est a priori pas indispensable. Et on va retirer le maximum jusqu'à quand ça ne marche plus. Et donc c'est pour ça qu'on a essayé de créer ici un banc de test qui est le plus simple possible pour pouvoir arriver à donner une mesure efficace sur nos filets. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on crée un brouillard à l'aide de ce transducteur piézoélectrique. Alors c'est pas quelque chose... Transducteur piézoélectrique, vous allez au marché de Noël, vous en trouverez. Hein. Vous avez ces fumées blanches qui sortent parfois. Voilà, c'est des petites céramiques qui vont osciller très 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 rapidement. À une fréquence ultrasonique, on l'entend pas, mais elle va déstabiliser, quand on la met dans un liquide, ça va déstabiliser l'interface liquide, et on va créer des micro-gouttes qui seront de l'ordre de 10 micromètres. C'est toute la même taille, à peu près. Et donc, on peut créer comme ça, très facilement, un brouillard. Bon, ce brouillard-là, après, il faut l'envoyer sur un filet. Donc, on a créé toute une soufflerie qui peut tenir dans un laboratoire. C'est pas une énorme soufflerie, c'est vraiment, ça tient sur une table. Et donc on laminarise le flux avec un laminariseur, ce sont aussi des pailles qu'on utilise souvent dans ces systèmes-là, et on envoie le brouillard dans ce système-là pour pouvoir envoyer le brouillard avec l'air sur une cible bien contrôlée et qui est suspendue à une balance très précise, et en dessous on a également une autre balance pour voir ce qu'on collecte. Et donc on peut mesurer en temps réel la quantité de brouillard qu'on a récolté sur le filet et en dessous aussi, en fonction du flux qu'on envoie, de la vitesse du vent, des tailles, etc. Et donc, on peut ainsi placer différents filets et donc les mesurer dans les mêmes conditions. Parce que souvent, dans les filets à nuages qui sont développés, ben, ils sont développés, ils sont déposés sur des montagnes. Alors, parfois, on peut faire des études comparatives entre deux filets. Et on peut dire, tiens, celui-là est meilleur qu'un autre, mais on ne sait pas vraiment comparer entre un qui était qui est déployé à Chili et un autre au Maroc, parce qu'on ne contrôle pas les conditions voilà, environnementales. Laboratoire, c'est le Frugal Lab. Ben donc voilà, on a les expériences qui sont là. Alors on a un mini Fab Lab pour la recherche qui est là. Donc on a des machines essentielles qui sont vraiment voilà juste pour la recherche. Comme on a besoin qu'elles fonctionnent, il faut qu'elles soient bien précises. On les garde ici au sein du laboratoire.
Et ça s'appelle comment du coup cette machine ?
Cette machine, on appelle ça bande test pour mesurer l'efficacité des filets à nuages. Je sais pas, elle a pas de nom particulier, on pourrait en donner un, mais. Là, pour le moment, on n'en a pas, mais je vais vous montrer comment elle fonctionne. D'abord, on allume les systèmes piézoélectriques. Alors, ils sont là. Vous voyez, là, on crée donc le brouillard. Hein. Donc, on voit déjà le brouillard qui est formé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le vent avec le ventilateur. On va faire tourner le ventilateur. Donc, le vent est amené ici. Il passe dans la minariseur, qui sont des pailles. Que vous voyez ici. Ensuite, on a un système de tubes coaxiaux dans lequel l'air pénètre. Et alors, on va faire pénétrer. Maintenant, on va prendre le brouillard et on va l'envoyer dans le tube. Alors là, on a un système de pression extérieure. Voilà, et en contrôlant les débits comme ça, vous voyez qu'on peut envoyer du brouillard. Alors, il disparaît en fait plus loin là-bas, hein, parce qu'en fait, les gouttes s'évaporent. Mais juste à la sortie ici, on va attendre un petit peu. Quand on attend un petit peu, on arrive à 100% d'humidité, donc il n'y a plus d'évaporation ici juste à la sortie. Et c'est ici qu'on vient placer nos cibles. Hein. On a une balance ultra précise ici, une autre balance en dessous ici. On met ça sur un cadre et puis on vient l'accrocher à la balance supérieure ici.
Et donc la balance récupère l'eau qui est captée par le filet, c'est ça ?
Oui.
Et qui ruisselle.
Alors si on attend un petit peu, on va voir que des gouttes vont se former sur le filet. Et après, les gouttes vont être drainées, elles vont vraiment couler le long du filet et puis tomber dans le récipient ici, qui est sur la balance. Ouais. Et donc on peut mesurer en temps réel, hein, parce qu'on est vraiment, enfin, on a connecté la balance à un ordinateur qui permet de mesurer en temps réel la masse qui est collectée par unité de temps.
On voit déjà les premières condensations.
Oui. Alors ici, j'ai pris le filet commercial, hein, qui était développé par un ingénieur allemand. Et il marche vraiment très bien, mais il va mettre beaucoup de temps en fait, à se mettre en place. Il faut que je reste comme ça à peu près 12 minutes. Donc je ne sais pas si je vais rester comme ça 12 minutes. Mais on voit déjà en fait, la nucléation des petites gouttes. Hein, elles vont se former. C'est des petites gouttes qui sont vraiment des perles. Et elles vont grossir, 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 jusqu'à devenir suffisamment massives pour pouvoir glisser le long du cylindre. Et rejoindre... Il y a un peu de biomimétisme là-dedans aussi. C'est assez bien fait quand même. Hein. Mais alors, okay. Ce qui est intéressant avec notre filet, hein, qui est le filet Kirigami, c'est qu'on va assez rapidement créer. Alors, c'est une version à plus large échelle, donc on le verra plus difficilement. On a des fibres beaucoup plus petites normalement. Mais on va créer très rapidement un fin film liquide sur le filet et ça va drainer rapidement. Si celui-là, il en faut les 12 minutes pour pouvoir récolter la première goutte, ici, il n'en faudra que 2. Parce que voilà, la quantité d'eau récoltée sur le filet est beaucoup plus faible et il arrive plus vite à saturation. Donc ça a un avantage dans des brouillards intermittents ou des faibles brouillards.
Et un peu plus tôt, vous parliez du fait que les précédents filets développés aussi vieillissaient mal dans le temps. Est-ce que oui. Vous avez déjà un retour par rapport à ceux que vous avez développés? Est-ce qu'ils tiennent plus longtemps aussi?
Ah, ouais, on n'en est pas encore là. Hein. On n'a envoyé qu'un premier prototype au Maroc. Donc, on est déjà très content qu'il ait tenu 4 mois avant de se déchirer. Et on l'a comparé au filet allemand. Et on est déjà au moins à 75% de captation du filet. Donc, je veux dire, on est sur une bonne piste. Parce qu'en fait, on travaille... on fait souvent du prototypage rapide. C'est-à-dire qu'on va tester des choses assez rapidement, on va avoir un retour, et puis après on va les améliorer comme ça. Alors c'est pour ça qu'on aime travailler en laboratoire et des machines de fabrication numérique, parce qu'en fait ça nous permet rapidement d'itérer et d'avancer comme ça. Alors une fois qu'on passe sur le terrain, c'est plus... Mais ici en fait on fait une expérience en, je sais pas, une heure ou quelques heures, on peut avoir quand on a tout qui est bien préparé, on peut avoir des résultats après une heure. Si on envoie ça sur le terrain, ben, il faudra attendre quelques mois. C'est une année d'expérience. Voilà, donc les itérations sont plus faibles. Donc on va plutôt itérer ici, pour et puis après on va devoir itérer, mais à plus, voilà, c'est à des temps plus longs.
Et vous avez débuté quand les recherches
Oh, c'était cette recherche-ci, elle a commencé en 2017, je pense. Donc ça prend du temps, la recherche fondamentale. Mm-hmm. Parce qu'en fait, on ne comprenait pas grand-chose au début. Je vous explique ça a l'air très simple. Mais il a fallu beaucoup de temps pour comprendre tout ça, parce qu'après on a dû regarder ce qui se passait, on a dû faire des modèles, des mesures précises, aller voir la littérature, recouper ça avec plein, voilà, pour avoir quelque chose d'assez solide sur lequel on peut vraiment construire et développer ça, quoi. Donc l'idée maintenant en fait, c'est que le Frugal Lab étant dans un environnement particulier, on travaille des machines de fabrication numérique qui sont en fait les machines d'un Fab Lab.
Et... qui permettent justement de réaliser ces prototypes de filets.
Exactement, tout ça. Voilà, la machine ici, elle est fabriquée entièrement, une bonne partie au Fab Lab. Donc, on peut la répliquer en fait dans n'importe quel Fab Lab qui est un peu équipé. Et notre avantage de notre Fab Lab ici, Fab Lab à l'ULB, c'est qu'il est adossé à l'université. Donc, on peut vraiment arriver à amener des savoirs et savoir-faire de l'université dans le Fab Lab et croiser ainsi les savoirs et savoir-faire du Fab Lab avec savoir universitaire et savoir-faire universitaire.
Et peut-être justement, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cet environnement particulier, hein, qu'est un Fab Lab? Est-ce que vous pouvez déjà nous dire concrètement qu'est-ce que ça crée comme environnement pour un chercheur de travailler dans un Fab Lab?
Oui, alors le Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication numérique. C'est un laboratoire qui vient en fait, il y en a à peu près 2000 dans le monde qui sont recensés sur la charte MIT. Mais en fait, il y en a certainement beaucoup plus. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on partage un ensemble de machines. En fait, on partage des outils communs. Alors, l'imprimante 3D, découpe laser, fraiseuse numérique, découpe vinyle, de l'électronique. Et en partant de cette base d'outils, en fait, on peut déployer des Fab Labs un peu partout dans le monde qui vont se colorer en fait en fonction de l'endroit où ils sont. Ici, on est dans un environnement universitaire, donc ils se colorent nécessairement en fait avec des étudiants qui sont là, les chercheurs qui sont là, etc. Et ce qui est intéressant, c'est quand on part des outils de fabrication numérique qui nous permettent de prototyper rapidement, c'est que y a pas que les physiciens qui sont intéressés par ça. En fait, naturellement, les ingénieurs sont intéressés par cela, mais également les architectes, également les juristes, étonnamment. Étonnamment, en fait, ce n'est pas étonnant. Ils travaillent sur la propriété intellectuelle. Donc, dès qu'on crée quelque chose, un objet, on est directement concerné par la propriété intellectuelle. Donc en fait, on draine toute une communauté interdisciplinaire. On ne peut pas savoir a priori nécessairement ce qu'on attire comme personne, mais il se fait qu'après plusieurs années, ici, maintenant, on a une équipe qui est pluridisciplinaire. On a des ingénieurs, des scientifiques, des juristes, des architectes, voilà. Et donc, ce qui rend en fait la recherche encore plus intéressante, parce que ça veut dire qu'on peut aller au-delà de simplement la mesure, enfin simplement la mesure et la publication dans une belle revue pour pouvoir partager nos recherches. Ici, on peut aller un step plus loin et vraiment essayer de déployer ça sur le terrain avec tous les savoirs et les savoir-faire universitaires. Et notre idée est de le faire dans l'univers du Fab Lab. On est beaucoup porté sur l'open source. Alors, en fait, tout un univers d'open source autour des softwares, des logiciels, voilà, c'est vraiment le numérique, mais comme si dans la fabrication numérique, en fait, on remarque qu'on peut utiliser ces mêmes logiques-là pour du hardware, pour du solide, pour des objets. Et ça, il n'y a pas grand-chose qui existe là-dessus, hein, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau modèle économique, voilà. Donc on essaie d'inventer des nouvelles manières, en fait, de déployer ce genre de filet-là, avec l'aide des juristes, avec l'aide des ingénieurs, avec l'aide d'architectes, aussi de socio-économistes, parce qu'en fait, quand on déploie un projet sur le terrain, en fait, il n'y a pas que du matériel, il y a aussi des humains. Et il faut voir comment ça se passe. Parce que quand ils ont développé les filets au Maroc, en fait, la première étude qui a lieu, c'est une étude anthropologique. Parce qu'en fait, les femmes passaient à peu près 3 heures par jour pour aller chercher de l'eau dans les puits de forage. Et à partir du moment où ils ont installé des filets sur les montagnes, eh bien, l'eau arrivait dans les maisons. Donc ça change toute la société. Voilà. Et donc c'est super intéressant parce que tout est combiné. Donc, c'est pour ça que l'apport d'une équipe interdisciplinaire pour déployer des projets dans le monde réel est essentiel et très intéressant.
Alors ce concept de Fab Lab, tu m'expliquais un peu plus tôt, ça vient des États-Unis. Hein.
Alors le Fab Lab vient des États-Unis effectivement, c'est un physicien qui s'appelle Neil Gershenfeld qui a inventé ça au MIT. En fait, il a un gros laboratoire de recherche qui est vraiment basé sur la fabrication numérique. Et il y avait tellement de machines de fabrication numérique à apprendre à ses étudiants qu'il s'est dit « je vais en sélectionner 5 ». Générique, et je vais leur apprendre ça, les bases, ils les auront pour pouvoir apprendre toutes les autres machines. Et en fait, ça marchait tellement bien, il en a fait un cours qui a marché extrêmement bien au MIT, qui drainait des étudiants de toutes disciplines. Et puis en fait, ça marchait encore vraiment tellement bien qu'il a fait un laboratoire en dehors du MIT, avec le premier qui était installé en Inde, dans une région reculée, où justement les gens partaient en fait des campagnes pour réattirer les gens dans les campagnes. Et ils leur ont installé un laboratoire, c'était une demande qui venait de là-bas, hein, où il y avait des machines de fabrication numérique pour pouvoir devenir entrepreneur et trouver des solutions en fait, aux problèmes de la campagne avec des solutions. Donc en mélangeant la high-tech et la low-tech.
Alors il y a plein de projets qui gravitent autour de ce Fab Lab. Est-ce que tu peux nous faire un peu visiter?
Oui, allons-y. Super. Donc on a plusieurs parties. Ici, on est dans l'aile recherche. Il y a aussi le laboratoire des juristes qui est à côté ici. On a ici... bonjour. On arrive ici dans la partie Fab Lab atelier. Bon, il y a beaucoup de monde ici. On arrive à la fin de l'année. Alors, il y a plusieurs cours qui se terminent. Et donc, c'est un peu le rush des étudiants.
Les étudiants en ingénierie, tu disais?
Ah, et pas que. Hein. Non. C'est fort stéréotypé. Évidemment, il y a plein d'ingénieurs, ça c'est sûr. Mais il y a aussi des scientifiques. Il y a même des juristes. Hein. Les juristes fabriquent des chaises ici pour le moment, et parfois ils les fabriquent mieux que les ingénieurs. Je ne peux peut-être pas le dire, mais c'est ça qui est étonnant. Alors ici, on a l'espace impression 3D, donc on a plusieurs imprimantes 3D qui sont en train de fabriquer des prototypes. Donc ça, c'est impression 3D, on a un espace électronique qui se met en place, vous voyez que ça se met en place tout doucement, il bouge tout le temps le Fab Lab. Hein. On arrive dans la partie machine découpeuse laser. Alors c'est une plus grosse machine, c'est un outil assez fascinant. Hein. Bonjour. Voilà, alors comment ça fonctionne ici? Ce qu'on a, c'est on a un grand laser de proche qui fait près 100 watts ici, hein, qui crée un faisceau qui va venir graver et découper la matière. Il y a un système de miroir, là, on ne voit pas très bien si on va découper et de la fumée dedans, il va falloir que ça passe dans l'extracteur pour être filtré. Mais voilà, on voit le résultat. On peut découper ou engraver du bois, du papier, du carton, du plexiglas. Et suivant la puissance et la vitesse du laser, eh bien on peut graver ou découper. Voilà. Et ça part d'un fichier numérique, si on le voit ici. Hein. Bah, il faudrait découper des objets là.
Vous découpez quoi?
On découpe des bouts de colonnes qu'on va assembler ensemble pour créer une colonne qui va soutenir un volant d'inertie. C'est un volant qui stocke de l'énergie en le faisant tourner.
Voilà, tu vois, il y a différents types de découpeuses ici. C'est assez bien parce qu'on sait faire des choses assez rapidement, assez précises. C'est un outil qu'il faut apprécier. Il faut pas tellement... En fait, c'est des outils où on peut assez rapidement apprendre à utiliser. La découpe laser, c'est 4 heures de formation. Imprimante 3D, c'est 2 heures. Voilà, donc en fait, assez rapidement, on peut être apte à faire des choses assez intéressantes. Ah ben voilà, voilà l'inertie.
Let's go.
Voilà, ici, on est dans l'espace fraisage numérique bois. Donc si on a une fraise numérique de moyenne taille pour découper des panneaux de 60 x 120 cm, alors on peut faire quoi avec ça? On peut fabriquer du mobilier, on peut fabriquer un tas de... un volant d'inertie, comme vous venez de voir ici. Mais on peut aussi fabriquer d'autres choses. Par exemple, ici, on a aussi une fraiseuse numérique qui permet de fabriquer des circuits électroniques. Oui. Voilà, une fois qu'on fait on a la logique de l'outil, on remarque qu'on peut appliquer... en fait, on peut utiliser pas mal d'outils. T'arrives dans le rush des étudiants, c'est la fin, hein, on est en décembre. Ils vont avoir leur jury bientôt dans les différentes disciplines, et là, ils sont tous là.
Ce fameux volant d'inertie,
c'est ça, oui. Ouais, donc on fait tourner le volant, et le volant d'inertie emmagasine l'énergie de rotation qu'on lui a donnée, de par son poids et sa taille. Et voilà, ça nous permet de faire avancer une petite voiture. Par exemple pour des stockages d'électricité, mais pour par exemple lisser le courant d'un réseau ou quoi. Aussi dans des voitures, dans des Formule 1, ça a été essayé pour récupérer l'énergie du freinage.
C'est uniquement des étudiants qui viennent ici, ou tu as des chercheurs, tu as aussi des gens de la société civile?
Oui, alors on a beaucoup d'étudiants évidemment parce qu'on a des cours qui se donnent dans les différentes facs. Mais on a également des chercheurs, on a également, comme tu disais, la société civile, effectivement. On a ici un laboratoire qui est dédié justement à la société civile, avec le Steam Lab, qui est un projet du Fab Lab pour pouvoir partager notre expérience de la transdisciplinarité avec les écoles primaires et secondaires. Et en même temps, on accueille ici le Repair Lab de Repair Together, qui est la SBL qui coordonne les Repair Café en région wallonne et bruxelloise. Parce qu'ils ont, en fait, ils partagent des valeurs similaires aux nôtres, mais ils n'utilisent pas nécessairement les mêmes outils. Et donc, en croisant nos communautés, on essaie de faire des projets qui sont assez chouettes, quoi. Voilà.
Merci beaucoup, Denis Terwagne.
De rien, avec plaisir.